Irène Finkel pour Esprit Occitanie. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Rimbaud pour son film Une intime conviction, avec Marina Foïs dans le rôle de Nora, Olivier Gourmet dans le rôle de Dupont-Moretti et Laurent Lucas dans le rôle de Jacques Viguier. Pour moi, il n'y a pas un public pour ce film. C'est voilà ce que je me suis dit en sortant. Il y a le public toulousain et tous les autres. Puisque, évidemment, l'histoire de ce procès, c'est l'histoire de Jacques Viguier qui s'est passé à Toulouse. Alors, j'ai lu dans d'autres médias que vous avez assisté vous-même à l'époque aux deux procès, celui de Toulouse et celui d'Albi, que vous connaissiez la famille Viguier.
Je les ai rencontrés à l'occasion du premier procès, je ne les connaissais pas.
Alors j'ai lu, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez proposé à la famille Viguier l'entrée en lice de l'avocat Dupont-Moretti ?
Pas exactement, mais quand il a été question de changer d'avocat, les enfants s'inquiétaient énormément de cet appel, hein, puisqu'on a jugé cet homme, on l'a déclaré non coupable une première fois, et puis le parquet, l'accusation, a décidé que ça ne comptait pas. Un jury populaire qui dit non coupable, on balaye et on recommence tout. Et donc il était question de changer d'avocat, il rêvait les enfants d'un acquittement plus médiatique, ils ont parlé, les enfants et l'entourage de Jacques Viguier, d'Éric Dupond-Moretti, et moi j'ai fait un peu l'émissaire, c'est-à-dire que je suis allé trouver Éric Dupond-Moretti parce que j'étais à Paris, à un moment donné il passait par là, et puis je lui ai dit que les proches de Jacques Viguier envisageaient de changer d'avocat pour savoir si lui serait disponible. Voilà, donc oui, j'ai ce petit point commun avec le personnage joué par Marina Foïs, mais ça s'arrête là.
Pourquoi avoir tourner ce film en restant aussi fidèle à l'histoire, en gardant jusqu'à trouver des personnages ressemblants, puisque par exemple pour Olivier Gourmet, c'est à s'y méprendre.
Ouais, en même temps, il ne se ressemble pas vraiment physiquement, Olivier Gourmet et Éric Dupond-Moretti, si vous les regardez bien, mais il a réussi cette incarnation, il a réussi son travail d'acteur, ça c'est sûr. Ah, il oui. le fait, je trouve qu'il réussit l'exploit pendant les deux heures de film de faire oublier le vrai. Tout en le faisant exister en permanence, puisque ce sont les vrais mots d'Éric Dupond-Moretti, en tout cas pour la partie judiciaire. C'est-à-dire qu'on a eu un rapport obsessionnel au réel et à cette affaire. Tout ce que vous verrez dans le film aux audiences a été dit aux audiences. Tout ce qui est lié au dossier, si vous voulez, on n'a pas osé ni voulu changer des détails. Bien sûr, on a fait des choix. Bien sûr, dans un film, on ne peut pas tout mettre. Hein. C'est pas la peine de le dire, d'ailleurs. Mais on a vraiment... fait ça avec beaucoup, beaucoup de précautions et d'attention aux détails.
Pourquoi avoir voulu tourner ce film ?
Parce que j'ai découvert la justice de mon pays au premier procès de Jacques Viguier, depuis le banc de la cour d'assises, avec stupéfaction. Et je suis tombé de mon banc tant cette justice marchait sur la tête. Cette affaire, c'est d'abord l'histoire d'une disparition, la disparition de Suzanne Viguier, mais on l'oublie souvent. Hein. C'est l'histoire de son mari, accusé d'abord d'assassinat et de crime parfait. C'est le storytelling médiatique pendant des années et des années, notamment celui de la Dépêche du Midi. C'est l'histoire du vice-doyen. Il y a vice dans vice-doyen, alors que c'est un terme qui n'existe pas. L'histoire du vice-doyen qui a tué sa femme et qui enseignait le crime parfait. Voilà, j'arrive à la cour d'assises, je m'aperçois qu'on juge cet homme pour meurtre. En l'absence de corps, en l'absence même de preuves de la mort de la disparue, ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas possible dans le droit anglo-saxon, hein, dans la procédure accusatoire, il n'y a pas de procès pour meurtre en l'absence de cadavre. C'est plus cartésien que chez nous. On a jugé cet homme sans preuve, il a été acquitté une première fois, on l'a rejugé sans preuve, il a été acquitté une seconde fois, moi j'appelle ça un fiasco judiciaire.
Est-ce qu'à travers votre film, vous, à travers l'affaire Viguier, vous faites pas le procès de la justice française?
J'essaye, à travers ce film, de m'interroger et de nous interroger tous ensemble sur notre justice, sur qu'est-ce que c'est que la cour d'assises, qui n'est plus représentée par le cinéma depuis très longtemps. Moi, je me suis fait la réflexion en découvrant ce procès que l'idée que je me faisais de la justice venait pour beaucoup des films anglo-saxons, américains, et donc d'une autre procédure que la nôtre. Objection, votre honneur, interrogatoire, contre-interrogatoire, le témoin est à vous, il n'y a pas de ça chez nous. J'ai voulu rendre la complexité de la cour d'assises, pour mieux s'interroger sur ces grandes notions qui sont ce qu'on découvre et ce qu'on entend dans une cour d'assises, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que juger, et qui plus est juger sans preuve, qu'est-ce que c'est que l'intime conviction sur laquelle va se baser le jugement, c'est ce qu'on demande à nos jurés, hein, qui sont comme vous et moi, des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Et puis qu'est-ce que c'est que le travail de la défense, dont on n'a pas vraiment idée, hein, qu'est-ce que c'est que le doute qui doit profiter à l'accusé. Cette affaire, plus qu'aucune autre...
Elle n'est qu'à charge.
Alors, il y a eu une enquête à charge, ça c'est sûr, mais surtout, cette affaire est pleine de doutes, et ça n'est qu'une somme de convictions qui s'additionnent ou qui s'opposent. Voilà, on ne saura probablement, hélas, jamais ce qui s'est passé. Mais il en est temps de spectateurs, de commentateurs, pour se forger leur intime conviction et avoir une idée très précise et se trouver une vérité. Voilà le vrai sujet du film. C'est-à-dire qu'au-delà du fait divers, moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. C'est quelque chose de bien plus universel que simplement cette affaire-là. Mais cette affaire, elle est révélatrice de dysfonctionnement. Et oui, sans faire le procès à charge de la justice, on s'interroge. On s'interroge sur la justice à travers cette affaire.
Est-ce que M. Viguier a assisté au tournage du film ?
Pas du tout, non, Jacques Viguier voulait rester un peu loin de tout ça. Par contre, je leur ai fait part de ma démarche, je leur ai donné un scénario quand on était presque sûr de pouvoir monter ce film. Donc ils ont lu le scénario, j'ai expliqué assez vite à Jacques Viguier et à ses enfants que je ne cherchais pas à prouver une innocence, car on ne prouve pas une innocence, hein, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il en convient lui-même, il le répète, on ne prouve pas une innocence. C'est à l'accusation qui a la charge de la preuve, de prouver la culpabilité de l'accusé. Moi, j'ai essayé de faire un film sur le doute. J'ai expliqué ça à la famille Viguier. Ils ont compris ma démarche. Et puis après, ils sont restés à bonne distance. Ils n'ont pas collaboré au film, contrairement à ce qui était écrit un peu vite dans la presse. Par contre, ils ont vu le film. Et
ça n'a pas
ils
été
l'ont compris.
Trop douloureux.
Forcément que si, pour les enfants, pour Jacques Viguier, de se replonger dans ce moment, le pire de leur vie à tous, le procès, forcément ça comporte de la douleur. Mais ce film raconte une autre histoire que celle qui a été racontée dans les journaux pendant tant d'années. Et pour les enfants, je crois, et ils me l'ont dit, c'est très précieux de voir par exemple le dessin qu'ils avaient fait. Ils ont fait un dessin qui est présent dans le film, c'est leur dessin. De voir ce dessin à l'image, ça prend en charge une partie de leur douleur et ça raconte sous un autre angle ce calvaire qui a été le leur, et ça permet à la réflexion. Je crois que pour les enfants, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce film peut-être peut devenir un outil pour communiquer, et ce film prend en charge un petit peu de leur histoire qu'ils n'osaient pas aborder hein, dans leur vie pendant des années. Vous imaginez, c'est compliqué de dire au fait, je m'appelle Viguier, je suis le fils ou la fille de Jacques et Suzy Viguier. C'est compliqué parce qu'ils ont à se défendre hein, de toute la calomnie répandue pendant des années et de toutes les saloperies qu'on trouve encore dans les journaux. Donc c'était très compliqué pour eux. Tout d'un coup, ils peuvent en parler parce que le film prend le relais de ça. Et j'espère que ce film va être, d'une certaine façon, réparateur, je ne sais pas, mais un peu libérateur d'une parole.
Je voudrais qu'on parle du personnage de Nora, parce que c'est le seul personnage fictif du film qui est, bien évidemment, très important. Est-ce qu'il ne représente pas, justement, tous les jurés ?
Nora, c'est vous, c'est moi, c'est l'opinion publique. Nora, c'est celle qui observe, qui se projette, qui part, qui ressent l'injustice dans son corps et puis qui, dans une quête de justice, va rentrer dans une quête de vérité. Dangereuse, parce que la quête de vérité peut rendre fou. Donc Nora, c'est celle qui, comme plein d'autres, et j'ai rencontré beaucoup de Nora, en fait, hein, et surtout aux projections dans la région, parmi les spectateurs, dans les salles, dans les questions qu'ils me posent, il y a énormément de gens pétri de certitudes, qui m'ont expliqué pourquoi Suzanne Viguier était morte, pourquoi Suzanne Viguier était partie, pourquoi M. Viguier avait tué sa femme, pourquoi c'était l'amant de Suzanne Viguier qui avait tué sa femme. Tout le monde a sa réponse. C'est des convictions qu'on peut renvoyer dos à dos puisqu'on ne sait pas. Voilà. Et l'enjeu du film, c'est le doute. Le doute, c'est la seule valeur audible dans cette affaire et c'est la valeur cardinale de notre justice. Malheureusement, au Café du Commerce, d'un geste, on condamne. Le film essaie de réinterroger tout ça pour s'interroger sur la présomption d'innocence et le bénéfice du doute.
Et pourtant, Nora, qui se laisse complètement bouffer
oui,
par
c'est
ce
le mot.
Procès, qui a toute sa vie qui part en vrille parce qu'elle n'a que ça en tête et les écoute, et etc., Elle finit pourtant par devenir ce qu'elle reproche aux autres.
Exactement. C'est exactement ça que j'ai voulu raconter. C'est ça la nécessité de la fiction. Et il y a une mise en abîme parce que la nécessité pour moi de trouver la fiction, d'investir la fiction dans ce personnage, quelque part, c'est la nécessité pour Nora de se trouver une vérité, pour les spectateurs de cette affaire, de s'inventer et de se trouver des certitudes. Si vous voulez, ça raconte que la nature a horreur du vide et que pour Nora, comme pour les accusateurs de Jacques Viguier, comme pour la justice. Malheureusement, il faut un coupable.
Quand vous avez voulu faire un film sur la justice en France. Vous avez choisi de reprendre l'affaire Viguier. Vous l'avez dit en introduction, vous avez assisté aux deux procès. Vous n'avez pas eu envie plutôt de faire complètement une fiction?
J'ai envisagé ça. Évidemment, je suis passé par tout un tas de recherches et d'étapes, de recherches de points de vue. Parce que
c'était très osé.
J'aurais pu faire aussi l'inverse, un documentaire pur sur l'affaire Viguier. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, au-delà du fait divers et de cette affaire, c'est ce qu'on peut essayer de... C'est l'interrogation sur la justice. Et ce personnage de fiction permet ça, parce que c'est avec elle qu'on va vibrer sur le banc, c'est avec elle qu'on va enquêter, c'est avec elle qu'on va se convaincre, puis douter. Voilà, c'est avec elle qu'on va vivre tout ça. Et donc la proposition faite au spectateur, c'est de rentrer dans la cour d'assises et de découvrir la justice à travers une citoyenne lambda qui s'est retrouvée un peu parachutée là. Alors je laisserai les spectateurs découvrir le film, mais son point de vue de citoyenne m'intéresse énormément parce que c'est le nôtre à tous. Voilà, et ça, c'est la fiction. Et je ne pouvais plus toucher l'affaire. Au bout d'un moment, je me suis demandé si j'allais m'en émanciper, etc. Mais cette affaire est tellement extraordinaire, tellement folle, on marche sur la tête dans ce procès. Je ne pouvais pas changer les noms, je ne pouvais pas changer les détails de l'affaire. Donc, on a trouvé un dispositif qui nous permettait d'investir ce personnage de fiction, Nora, dans son regard et son point de vue. En revanche, on ne touche pas à l'affaire. Tout ce que vous voyez des audiences a été dit à l'audience. Tout ce que vous entendez lié à cette affaire, le médiatique, le fameux dessin des enfants dont je parlais plus tôt, les écoutes téléphoniques qu'on a reproduites, qui étaient passées à l'audience, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Et je trouvais que le réel avait une force incroyable et qu'il fallait que je puisse dire là, devant votre micro, tout ça est vrai, tout ça s'est passé, tout ça a été dit.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de ce tournage?
Vis-à-vis de la justice?
Non, vis-à-vis de tourner à Toulouse, c'était quand même lourd.
On a fait le choix, on a été aidé par la région Occitanie, ce qui était évidemment très précieux. J'aurais été très malheureux de devoir tourner le film dans une autre région. En revanche, on a aussi eu une aide de la région Île-de-France et on a délocalisé la partie judiciaire en Île-de-France, ce qui était effectivement bien. Je parle souvent de distance de sécurité. Il y a une distance de sécurité entre Nora et la famille Viguier, comme il y a une distance de sécurité entre la fiction et le réel. Là, c'était plutôt pas mal. On a tourné à Toulouse tout ce qui concerne la vie de Nora, de notre personnage, donc dans les rues, dans le restaurant dans lequel elle travaille, etc. Son fils, enfin voilà, on a tourné cette partie-là, la moitié de notre tournage, et puis l'autre moitié, c'est-à-dire recréer ce procès, ça s'est fait à bonne distance, et je pense que c'était bien.
Est-ce que vous êtes écœuré?
J'ai fait ce film précisément pour transformer ma stupéfaction et mon questionnement en quelque chose. Moi, j'ai fait de mon obsession pour cette affaire une obsession de cinéma, et puis un personnage obsessionnel qui interroge tout ça. Ça va mieux maintenant que j'ai fait ce film qui ressemble à ce que je voulais faire. Mais c'est difficile de croire en la justice de son pays après l'avoir regardé à la loupe. Voilà ce que je peux vous dire, il vaut mieux pas avoir affaire à la justice.
Vous êtes réalisateur, vous n'êtes absolument pas juriste au départ.
Non.
Comment vous vous êtes retrouvé au premier procès de Viguier?
Alors complètement par hasard, un ami cinéaste qui s'appelle Karim Dridi me parle de cette affaire. Il me dit qu'il a rencontré Jacques Viguier, mais très brièvement, quoi. À une occasion, il a présenté par des amis communs, et puis il me dit, mais c'est incroyable. Alors il n'était pas jugé encore, c'était en 2008 qu'il m'en parle. Il me dit, tu devrais aller voir, parce que j'écrivais à l'époque des scénarios sur le doute, pas du tout judiciaire, mais des scénarios comme ça qui laissaient, avec des fins ouvertes, qui laissaient le spectateur se débrouiller avec ses convictions. Et il me parle de cette affaire, je lui réponds qu'on ne fait pas de film judiciaire en France, que c'est excessivement compliqué, d'autant que cet homme n'est pas jugé. Mais je vais voir le procès, et puis je lis la presse. Alors dans la presse, on trouve tout un tas de mensonges, de calomnies, de raccourcis, de vice-doyen, ce qui n'existe pas, a tué sa femme. Il n'y a pas de vice-doyen à l'Université de Toulouse, mais enfin, encore aujourd'hui, quand je lis La Dépêche du Midi, pour ne pas la citer, je lis l'histoire du vice-doyen. Voilà. C'est assez... fou à quel point la rumeur est tenace et indélébile. Il faut imaginer ce que c'est que d'être accusé. Je le souhaite à personne.
Oui, ça, je comprends.
C'est un peu par hasard que je suis allé poser mes fesses sur le banc de la cour d'assises et que j'ai rencontré à l'occasion du premier procès la famille Viguier et ses enfants qui vivaient en sursis dans une attente de réponse que la justice ne leur donnera jamais.
Vous avez conscience que votre film peut déranger?
J'espère qu'il interroge. au mieux les accusateurs convaincus de Jacques Viguier qui n'y connaissent rien et qui n'y savent rien. J'espère qu'ils vont un tout petit peu s'interroger sur leurs sentiments.
Une dernière question. J'ai lu dans la presse que l'amant avait essayé de faire interdire la sortie du film. Vous pouvez en dire quelques mots ?
Alors, j'en dirai quelques mots quand la justice se sera prononcée. Elle se prononce vendredi 22, aujourd'hui, à 15h. Donc, on attend ça avec impatience. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait un film comme ça, on prend énormément de précautions et on s'entoure d'avocats. Et on ne fait pas n'importe quoi. On a une grande responsabilité. Donc, on a essayé de prendre le plus de précautions possible. Et je le redis, il n'y a pas dans ce film de diffamation. On n'a pas fait dire à des protagonistes ce qu'ils n'avaient pas dit. Et on en a la preuve. Et il n'y a pas dans ce film d'atteinte à la vie privée, parce que dans les fameuses écoutes dont l'utilisation nous est reprochée, ces écoutes, je le rappelle, le film n'invente rien. Et le procès de Jacques Viguier et d'Albi a été raconté en long, en large et en travers. Ce sont ces écoutes et les mensonges qu'elles contenaient qui ont valu à M. Durandet une garde à vue pour subornation de témoins. Ce n'est pas le film. Ce sont ces écoutes qui ont permis de donner une autre tournure et une autre couleur à ce qu'a écrit la presse. Ce n'est pas le film. Le film raconte ce procès, c'est vrai. Je le redis, dans ces écoutes, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée de M. Durandet. Dans ces écoutes, il est question de la vie privée de M. Jacques Viguier. Il est question de la conviction de M. Durandet, de la culpabilité de M. Jacques Viguier. Il est question de la douleur des proches de M. Jacques Viguier. Ça, il en est question. Mais j'ai fait très attention à ne pas mettre la vie privée de M. Durandet. Et je vous assure que les journaux n'ont pas hésité à raconter tout un tas de choses. Ces écoutes passées à l'audience, il y avait énormément de vie privée de M. Durandet. Nous, on a fait attention à ça. On attend que la justice réponde à ces questions. On peut comprendre, évidemment, sa plainte. Évidemment qu'on peut le comprendre. Mais peut-être qu'il est temps pour lui d'assumer ses propos. Il fut un temps où il se vantait en disant « Si je ne suis pas là, il n'y a pas d'affaire. » Aujourd'hui, il parle de son droit à l'oubli. Malheureusement, il y a une jurisprudence là-dessus. Le droit à l'oubli, c'est très compliqué. Hein. Quand il y a eu un fait divers, on peut le déplorer, évidemment. Mais c'est très compliqué. Et puis quand on s'est soi-même prêté au jeu médiatique avec excès. Voilà, donc écoutez, j'attends que la justice se prononce. J'ai déjà abondamment commenté à l'instant cette décision qu'on attend avec impatience. On ne comprendrait pas que le film soit interdit. Je n'ose l'imaginer. On est dans un pays démocratique, on a encore la liberté d'expression, on y est encore attaché. Et je ne comprendrais pas qu'on soit condamné pour atteinte à la vie privée, car la vie privée s'est encadrée par le droit, c'est défini, et il n'y a pas d'atteinte à la vie privée dans ce film.
Merci Antoine.